Paris, 14 avril, ma vie est un exil, j'en vis des jours tranquilles à Clichy. Henri, volcan velours, bandit au souffle court, j'écris la nuit, le jour, tout mon amour, mon amour. Là dans mon journal.
Ah, la lutine a le diable au cœur, la douleur assassine. Ah, la lutine, Anaïs, infiniment féminine. Ah, la lutine a le diable au cœur, la douleur assassine. J'ai fui le bruit des villes, la pluie est un exil, elle coule des jours tranquilles à Clichy.
Henri, j'ai le cœur lourd du gris qui nous entoure, je crie depuis toujours. Mon amour, là dans mon journal.
Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs, infiniment féminine. Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs, Nîmes, Anaïs.
Miller, j'ai froid, le temps d'un taxi, et me voilà contre toi, Henri. Attends-moi, je te suis, peu m'importe si parfois la nuit nous trahit. Enfer ou paradis, prends-moi l'interdit.
La chanteuse Romane Cerda en duo avec Renaud et la pièce Anaïs Nin.
De Mario Girard intitulé « À un gag du chômage ». À quoi pensait très exactement José Godette, l'un des animateurs de « Ça rentre au poste », émission radiophonique diffusée sur Énergie, quand il a comparé Grégory Charles à un étron? S'est-il dit « Oui, je suis en train de me planter, moi là. Ce gag va avoir du mal à passer, mais je le fais quand même. » Ou alors, n'a-t-il rien pensé du tout? Ma collègue Véronique Lauzon a rapporté hier la bourde que l'animateur a faite le 17 mai dernier lorsqu'il décrivait une vidéo virale dans laquelle on voit une femme déféquer dans un Tim Hortons. Tu vois dans son regard qu'elle a un Grégory Charles prêt à sortir sur scène, a dit José Godet pour relater la chose à ses deux co-animateurs. Devant le tollé suscité par ce commentaire, l'animateur s'est platement excusé auprès de ses auditeurs quelques jours plus tard. J'ai voulu en savoir plus sur cette blague de mauvais goût hier, mais la direction de Bell Media n'a pas souhaité commenter davantage cette affaire pour le moins embarrassante. Je ne peux pas croire qu'en 2018, un animateur de radio puisse dire une telle chose, que cela soit improvisé ou pas. Après les nombreux coups de semonce assénés à divers animateurs qui ont eu la langue débridée, après tous les débats sur le racisme et la tolérance qui ont eu lieu ces dernières années au Québec, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un à qui l'on confie la lourde responsabilité d'un micro puisse balancer une telle énormité. Pour le moment, ce commentaire fait l'objet d'une seule plainte de la part d'un citoyen auprès des autorités. Selon Radio-Canada, le plaignant Will Prosper, porte-parole du mouvement Montréal-Nord République, exige des sanctions contre l'animateur. On verra ce que cela donnera. Mais si l'on se fie aux statistiques des dernières années, les plaintes ont très peu de chances de se transformer en blâme officiel. J'ai été renversé de voir que, du nombre de plaintes que reçoit le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion, de la radio-télévision, CCNR, une minuscule poignée est retenue afin de sévir auprès des radios et des télés. Il faut savoir que depuis le début des années 90, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, n'est plus responsable de gérer les plaintes des auditeurs et téléspectateurs, sauf celles visant les diffuseurs publics. On a donc créé le CCNR, le Conseil canadien des normes de la radio-télévision, un organisme financé par ceux qui font partie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Bref, ce sont les radiodiffuseurs eux-mêmes qui sont chargés de s'auto-chicaner. Triste nouvelle, décès du comédien Gabriel Gascon. Le comédien Gabriel Gascon, connu pour son rôle d'Alexis dans Les belles histoires des pays d'en haut de Claude-Henri Grignon, est décédé à l'âge de 91 ans. Né le 8 janvier 1927, il était un des 12 enfants de Charles-Auguste Gascon et de Marie-Rose Dubuc. Il naquit au coin des rues Cartier et Ontario. Le père excellait dans les affaires et il était, entre autres, le propriétaire d'une marque de liqueurs douces bien connue à l'époque, l'étiquette Christin, un paternel d'allégeance unioniste très pratiquant. Chaque dimanche, toute la famille devait se rendre à la messe. C'est d'ailleurs à l'église que le jeune Gabriel s'émerveillera pour le chant et les rituels religieux. Même dans son grand âge, il fredonnait encore des cantiques qui n'avaient pas quitté son esprit. On se plaît à imaginer que c'est le cérémonial liturgique qui inculquera les premiers ferments de son futur goût pour la scène. Parce que le père était amoureux des arts, il ne mettra aucun frein à ce que le frère aîné de Gabriel, Jean, n'entreprenne pas la carrière de médecin qui l'attendait au sortir des études, afin qu'il puisse faire du théâtre. C'est le même Jean Gascon qui fondera plus tard le Théâtre du Nouveau Monde en compagnie de Jean-Louis Roux. Jean était déjà avec la troupe des compagnons de Saint-Laurent du père Émile Legault. Et c'est ainsi que Gabriel joindra la formation. Ce dernier, en raison de la maladie qui l'affligea assez jeune, ne fera rien comme tout le monde. Curieux comme pas un, je mettais mon nez partout et je mentais comme je respirais, disait-il rétrospectivement, en pensant à cette jeunesse heureuse. Mais tout comme Jean, il étouffe au Québec où la culture sous Maurice Duplessis était loin d'être une priorité. Il ira donc en France à deux reprises. La seconde fois, il séjournera plus de deux décennies où il entreprendra une carrière marquée au coin de la rigueur. C'est en France qu'il retrouvera les Jean-Pierre Onfort et André Lachapelle. La comédienne le considérait déjà comme un artiste hors pair, car comme l'a déclaré le metteur en scène Denis Marlowe, rien chez lui n'était laissé à l'improvisation. Il pouvait se lever la nuit pour étudier un geste à faire, de sorte que sur scène, on savait que s'il levait la main de telle façon, c'est que cela avait une signification. Unie contre la sclérose en plaques, si elle a convaincu Lisa Leblanc, Claude Pelgag, Laura Sauvage, Galaxy, Safia Nolin, Émile Bilodeau, Geoffroy, Rémi Chassé et Dany Placard de se réunir pour un spectacle bénéfice le 15 septembre, c'est parce que Sophie Berriot travaille auprès des musiciens québécois depuis près de 15 ans, que ce soit en gérance, en programmation ou maintenant à la SOCAN. Récemment, elle a appris qu'elle souffrait de sclérose en plaques et elle a décidé de lancer PS J'ai la SP, un forum où les jeunes adultes qui ont la SP peuvent échanger. Le nouveau long-métrage de Sébastien Pilote, La disparition des Lucioles, sera présenté en première mondiale à la 53e édition du Festival de Charleville-Varry, où il a été sélectionné en compétition officielle. Mettant en vedette Karel Tremblay, Pierre-Luc Briand et Luc Picard, l'histoire est campée dans une ancienne ville industrielle où Léo, jeune femme insatisfaite de sa vie, fait la rencontre de Steve, un homme plus âgé et reclus, qui lui donne des leçons de guitare. Auprès de lui, elle trouvera le réconfort et l'élan pour se projeter en avant. Sébastien Pilote s'est fait remarquer avec ses deux premiers longs-métrages, Le Vendeur et Le Démantèlement. Le festival de Charleville-Varry aura lieu du 29 juin au 7 juillet. Philippe Laprise et Pierre Hébert, deux grands amis dans la vie, co-animeront le 20e gala Les Oliviers le 9 décembre prochain sur Ici Radio-Canada Télé. Le duo vedette de l'ancienne série Vrac, La Vie, succède à François Morancy qui a animé le gala à trois reprises. Découverte de l'année en 2010 aux Oliviers, Pierre Hébert a remporté le trophée du spectacle d'humour pour Le goût du risque lors du dernier gala. Présenté jusqu'en 2016 à la fin du printemps, le gala de l'humour a été déplacé en décembre l'an dernier. Question de profiter de la période des fêtes très florissante pour la vente des billets de spectacle. Gala Artisan Québec Cinéma, Les Affamés et Hochelaga Terre des Âmes déjà honorés. 14 prix Iris ont été attribués hier soir au Gala Artisan Québec Cinéma, prélude au Gala Québec Cinéma de dimanche. Les Affamés de Robin Aubert a remporté 5 prix et Hochelaga Terre des Âmes de François Girard en a récolté 4. Chien de garde, Les Rois mongols, Tapo Silis, Manique et La part du diable se sont aussi inscrits au tableau d'honneur. Le réalisateur Robin Aubert a reçu le trophée du film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec pour son film Les Affamés. Pierre-Philippe Pilou-Côté, Les Affamés, est reparti avec l'Iris de la meilleure musique originale. La réalisatrice Sophie Dupuis a accepté le prix du meilleur montage au nom de Dominique Fortin pour Chien de garde, Stéphane Bergeron, Olivier Calvert et Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon pour Les Affamés ont remporté l'Iris du meilleur son. L'un des 4 Iris d'Hochelaga Terre des Âmes a été gagné par Anne-Louise Landry et Régent Forget, meilleure coiffure. L'Iris du meilleur maquillage est allé à Éric Gosselin et Marie-France Guy pour Les Affamés. Jean-François Jaffaz Ferland d'Alchimie 24 a accepté le prix des meilleurs effets visuels pour Les Affamés. François Messier-Rault, Tapo Silis, a obtenu l'Iris de la meilleure direction de la photographie dans un film documentaire. Et l'animation de la soirée a été assurée par les comédiens Pierre-Luc Fonck et Léane Labrèche d'Or. Don't know what's happening. This ain't what I'm about. It's only been a week, and I'm parked outside of your house. I ain't trying to creep. Just let me in and hear me out, 'cause it's about to go down. I'm not thinking straight, so it's a stuttering slur in my speech. I'm gonna be your slave. You got me like a dog on a leash. Ain't too proud to beg. On my knees. Take out all my money from the bank. Take you around the corner by the rain. You're all up in my head, but I ain't even mad. You make me wanna make a bad decision. Let's book a shopping trip.
could charter a jet, and I don't give a shit if I never get out of debt. I say you'll be my girl, and I promise you I'll handle with care. What you doing to me? Take out all my money from my bank. Take you around the corner by a rain. You're all up in my head, but I ain't even mad. You make me wanna make a bad decision. I took you to the jeweler, don't you pick a ring. I took you to the dealer, don't you pick a range. I took you to the parlor, spend $100 on a tattoo with your name and your face. And when all of the cash out, credit card maxed out, I'ma sell the house, baby, you're the realest date. See, I don't even stress for a sec, cause your loving is the best if I just make a bad decision. Take out all my money from the bank.
Et on vient d'entendre l'électro-funk très contagieux du duo montréalais Chromeo et la pièce Bad Decision.
Sujet libre, Robert Poëty quitte la vie politique. Député libéral de Marguerite Bourgeois depuis 2014, ministre délégué à l'intégrité des marchés publics, Robert Poëty a fait savoir mercredi qu'il ne serait pas candidat aux prochaines élections. Une annonce surprise, il avait caché son plan de match même aux autorités de son parti. 15e membre de l'équipe de Philippe Couillard à faire connaître son intention de quitter, l'ancien policier avait été humilié en janvier 2016. C'est ce qu'écrit Denis Lessard dans la presse, dans la mise à jour de la presse. Seul ministre à avoir été éjecté hors du gouvernement lors d'un remaniement ministériel, il avait perdu les transports. Par la suite, dans une lettre sur le respect des règles d'attribution des contrats à son ancien ministère, il avait mis son successeur Jacques Daou dans l'eau chaude. La sous-ministre Dominique Savoie avait été sacrifiée dans l'opération. Pendant longtemps, il aura été à couteau tiré avec le chef de cabinet de Philippe Couillard, Jean-Louis Dufresne. En octobre 2017, il était réintégré au Conseil des ministres sous le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcan, comme garant de l'intégrité de l'attribution des marchés publics. Son annonce de mercredi a hérité des libéraux influents. À maintes reprises, il avait signifié aux organisateurs son intention de porter de nouveau les couleurs du parti aux prochaines élections. La surprise est d'autant plus grande que le parti avait depuis longtemps réglé la question de l'investiture dans Marguerite Bourgeois. Le député Poëty avait été désigné candidat par les militants de sa circonscription. Avant les élections à Montréal, il avait jonglé avec l'idée d'aller sur la scène municipale dans l'équipe de Denis Coderre, dont il est resté proche. Sur Facebook, mercredi, Robert Poëty s'est dit fier d'avoir contribué à l'adoption de 7 projets de loi, dont celui qui mènera à la création de l'autorité des marchés publics. Je n'ai pas peur de mon avenir. Après 18 années dans le patinage de vitesse, Marianne Saint-Gelais tourne la page. Personnalité marquante du sport québécois depuis ses 2 médailles d'argent aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, elle sera célébrée par parents, amis et coéquipiers lors d'une soirée aujourd'hui à Montréal. En entrevue hier, elle est revenue sur sa carrière, son avenir et 2 semaines difficiles aux Jeux de Pyeongchang. C'est Simon Drouin de La Presse qui signe cet article. Marianne Saint-Gelais est apparue comme un météorite dans le petit monde médiatico-sportif québécois. Comme elle le dit elle-même, elle était une « nowhere » avant de gagner une médaille d'argent le jour de son 20e anniversaire aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. 8 ans plus tard, la patineuse de vitesse sur courte piste était en discussion avec André Robitaille après avoir livré sa dernière chronique de la saison à l'émission « Entrée principale » hier après-midi à Radio-Canada. Le vétéran de l'animation lui prodiguait quelques conseils au cas où elle reviendrait l'automne prochain. C'est là qu'on se rend compte des qualités qu'on a acquises comme athlète, disait-elle quelques minutes plus tard, assise sur la terrasse ensoleillée de la Tour Brune. Notre quotidien, c'était ça, se faire dire ce qu'on doit corriger. On est habitué, on prend bien la critique. À 28 ans, dont les 18 derniers consacrés à son sport, Saint-Gelais plonge dans le vide. Normalement, à ce temps-ci, elle avait déjà repris l'entraînement. C'est sûr que je m'ennuie. Des fois, je me dis que ma vie d'avant, je l'aimais. Justement, c'est le piège. Quand j'étais patineuse, j'avais un horaire, j'étais encadrée. C'est ça qui est déstabilisant, qui fait peur quand tu prends ta retraite. Du jour au lendemain, tu n'es plus personne. Personne ne s'occupe de toi. Elle poursuit. J'ai toujours eu le sport et la performance en tête. Là, il faut que je prenne soin de moi parce qu'il faut que je prenne soin de moi. Pas, je ne peux pas manger de chips ou boire de l'alcool parce que j'ai une compète dans 2 semaines. Une compète ici, c'est compétition. Non, il faut que je fasse attention à moi, Marianne. C'est difficile, ça. Je me suis rendu compte que je m'oubliais dans le sport. La personne a pris le bord pendant des années. En paix avec sa décision mûrie de longue date, la native de Saint-Félicien s'ennuie surtout de la compagnie de ses coéquipières avec qui elle est toujours en contact. De patiner? Pas du tout. J'en suis là, à voir vraiment ce dont j'ai besoin pour me repartir une nouvelle routine. En même temps, j'ai besoin de ce moment-là d'incertitude où j'ai des temps morts, parce que ça n'a jamais été ça pendant les 11 dernières années, et ça se peut que ce soit pendant un bout par la suite. J'ai besoin de ce temps de calme, et oui, d'angoisse. Je n'ai pas peur de mon avenir. En ce moment, ça va super bien. J'ai des contrats, des trucs, financièrement c'est correct, ma famille est là, j'ai de bonnes personnes autour de moi. C'est juste que je suis seule, livrée à moi-même. J'ai de la misère. C'est juste ça, dit Marianne. La nouvelle retraitée doit maintenant composer avec des questions dont les réponses ne sont pas conditionnées par le sport. La première, la plus fondamentale, est-ce que je reste à Montréal? Pour l'heure, même si elle s'ennuie toujours de son coin de pays quitté à l'âge de 17 ans, elle a décidé de s'établir dans la métropole. Les occasions dans le monde des médias qu'elle s'est surprise à aimer et qu'elle découvre encore seront forcément plus nombreuses. « Je me donne cette chance-là », résume Saint-Gelais. « Je me suis rendu compte que j'aimais écouter, partager des choses, être entourée. Je peux très bien prendre ces facettes de ma personnalité et m'en servir. Je n'ai pas besoin d'être devant le Kodak. On s'aligne vers ça. » J'ai donné des conférences, ça peut être de la radio, j'ai travaillé avec Pierre Lavoie à la course du Grand Défi et j'ai adoré ça. En principe, Saint-Gelais devait se marier cet été avec Charles Hamelin, l'homme dont elle était indissociable depuis leur embrassade sur le bord de la bande à Vancouver en 2010. Ce geste spontané en a fait le couple chéri des Québécois jusqu'à l'annonce surprise de leur séparation à leur retour des Jeux de Pyeongchang, quelques jours avant le début des championnats du monde de Montréal en mars dernier. Cette rupture imminente a-t-elle eu un impact sur ses prestations en Corée du Sud? Pas pour moi, assure Saint-Gelais. Figurant parmi les favorites à titre de double vice-championne mondiale, elle a subi 2 disqualifications et 1 élimination en quart de finale du 1000 mètres. Le scénario catastrophe s'est répété aux mondiaux. Au jeu, on était ensemble, précise-t-elle. En revanche, ils avaient décidé de les vivre chacun de leur côté avec leur équipe respective. C'est sûr que c'était dans l'air parce qu'on avait vécu 2 Jeux olympiques ensemble où c'est le couple qui avait été mis de l'avant et on était habitués de vivre dans les pas l'un de l'autre. Des fois, on se disait que ça aurait été le fun de le vivre ensemble, mais c'était un choix qu'on avait fait au début. Saint-Gelais ne s'explique pas ses contre-performances à Pyeongchang, sinon par les aléas du patinage de vitesse courte piste et des choses très, très bizarres dont elle refuse de révéler la teneur. J'ai entendu des choses qu'on n'aurait jamais dû entendre en tant qu'athlète, mais c'est comme ça. Je ne vais pas les dire parce que ce n'est vraiment pas bon pour mon sport. Ça aurait été facile de plonger dans une zone négative par rapport à mon sport. Mais j'ai décidé que je ne voulais pas aller là. J'ai décidé que j'ai eu 18 années merveilleuses et il y a deux semaines difficiles, c'est tout. Difficile côté résultat, mais sur le plan humain, ça a été fantastique. Ça dépend toujours de comment tu vois les choses. Voilà peut-être le sujet d'une future chronique. À vos vélos, le week-end prochain est celui des amoureux du deux roues. Le festival Go Vélo Montréal bat son plein jusqu'au 3 juin, avec comme point culminant le Tour la nuit, vendredi, et le Tour de l'île, dimanche. Le chanteur Émile Bilodeau donnera d'ailleurs le départ de l'événement avec ses musiciens. Les cyclistes pourront également profiter d'une nouvelle offre gourmande, de bornes thématiques et de l'animation de Montréal complètement cirque. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis, qui remercie aussi Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Et je vous invite à rester des nôtres, puisque dans quelques minutes, j'anime les paractualités avant-dernière émission de la saison. Et puis, il y aura deux entrevues comme d'habitude. On fera des bilans aujourd'hui avec, je vous nomme mes deux invités, Serge Poulain de Ruta, et aussi Geneviève Labrec du regroupement pour la trisomie 21. Alors, restez là!